Du 22 au 26 juillet, à Saint-Antoine-l'Abbaye, se tiendra la 22e édition du festival Texte en l'air, un festival bien connu du territoire, des habitants du territoire, de théâtre, de poésie et de musique. Un festival qu'on affectionne particulièrement à Radio Royan-Vercors et dont on est partenaire dans ce magazine estival. Et je reçois Valérie, sa directrice, Valérie Charpinet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue parler de ce festival et dérouler avec nous la présentation ce matin dans nos studios caniculaires.
Ça va le matin, en tout cas.
Quelle couleur pour ce festival, pour cette édition 2026 que vous tenez depuis 22 ans, enfin la 22e édition maintenant? Est-ce qu'il y a des choses un peu différentes, des choses que vous avez eu envie de mettre en valeur?
Eh bien, cette année, j'ai tiré comme fil rouge, et le rouge, c'est la couleur aussi de l'année, puisque c'est la couleur de notre affiche, et c'est la question de nos héritages, qui peut être perçu autant dans le sens de nos héritages familiaux, ce qu'on connaît moins, et aussi de nous humains, de quoi on hérite, de comment on prend soin de ceux dont on hérite, ou pas. Voilà.
Donc à la fois une dimension, je dirais, intime ou familiale, et à la fois collective.
Absolument. Voilà, je pense que c'est, pour moi c'est important à Texte en l'air, parce que c'est quand même... Un festival, c'est un endroit de rassemblement avant tout, de rassemblement populaire, et c'est un endroit justement où on peut échanger collectivement, parler autour de ce qu'on voit, de ce qu'on entend.
Et c'est important qu'il y ait des festivals comme le vôtre en territoire rural, des festivals abordables, on va y revenir, avec des choses gratuites, des choses payantes, mais avec un tarif assez attractif, dans une période où les questions de culture, les questions de spectacle vivant sont particulièrement malmenées. Donc bravo de tenir encore cet événement. Comment c'était de construire cette édition dans ce contexte-là?
Alors c'est... avec des incertitudes jusqu'au dernier moment presque, donc pas mal de tensions pour toute l'équipe, et je parle aussi de tout le conseil d'administration qui porte cette belle association. Et puis je dirais que les inquiétudes sont plus sur l'horizon 27 ou 28, avec de grandes incertitudes. Donc on a un peu l'impression, enfin on ne sait pas trop où va nous mener ces deux années qui vont arriver là. Et donc il y a, voilà, il y a de l'incertitude, et donc de notre côté il y a l'idée de se mettre en chemin pour réfléchir, repenser peut-être le projet artistique, en tout cas peut-être anticiper avant que des choses difficiles arrivent sur nos territoires, sur nos actions culturelles et nos structures culturelles. Donc on est un petit peu en réflexion à Texte en l'air sur imaginons peut-être, ouvrons un peu nos imaginaires pour inventer comment allons-nous continuer à faire de la culture, puisque c'est le but, c'est de continuer à faire de la culture, évidemment.
Et on en a besoin. J'interviewais à ce même micro il n'y a pas très longtemps des artistes qui disaient, bon, mais de toute façon, les artistes sont des créatures résilientes, donc on s'adapte, on crée, on imagine. Peut-être c'est ça qui fait la force aussi du milieu culturel, c'est de se dire, on va rebondir.
Oui, c'est ce qui fait sa force, mais c'est aussi un petit peu, on compte un petit peu aussi trop là-dessus, c'est-à-dire que c'est aussi des gens, c'est un travail, et c'est aussi des gens qui ont besoin de pouvoir vivre de leur travail, et donc parfois là, c'est un petit peu bon dos aussi la résilience des artistes pour les malmener, voilà.
Et donc on a besoin du spectacle vivant, et on a besoin de réfléchir à nos héritages.
Absolument.
Très belle thématique pour cette édition 2026, avec notamment deux artistes en résidence qui travaillent ces thématiques-là.
Oui.
Et qui vont aussi inspirer ce fil rouge.
Oui, c'est ce fil rouge est clairement inspiré du travail donc de Anuradha Rugunandan et de Metti Navajo. Anuradha, qui a une double appartenance culturelle, avait jusque-là beaucoup travaillé sur l'héritage de son père, qui est donc originaire de l'île Maurice, et se penche sur ce projet d'écriture qu'elle est venue travailler à Texte en l'air, sur l'héritage du côté de sa mère, grande famille française. Et comment fait-on avec un héritage qui est plutôt du côté de la colonisation d'un côté et de décoloniser de l'autre? Comment fait-on à l'intérieur de soi? Comment ça cohabite, ces deux histoires-là?
comment son identité est tissée de tout ça. Et Métis, qui est une artiste qui habite dans le Royan,
oui.
Et qui travaille le théâtre aussi, qui est autrice de théâtre, hein.
Oui.
Qui travaille aussi sur ces questions.
Oui, et elle, son endroit de questionnement est plutôt sur nos héritages à nous, humains, c'est-à-dire qu'est-ce que nous faisons du vivant et des vivants qui sont autour de nous et qui ne sont pas humains. Comment on en prend soin ou pas, comment on tisse des relations avec eux, quelles relations on a tissées et comment on tisse ça. Et là, elle va travailler un petit peu, elle viendra à l'automne travailler à Texte en l'air et elle va travailler un petit peu autour de plusieurs idées, les procès qu'on a fait aux animaux en s'inspirant de ça, les procès qu'on a quasiment failli faire à un certain pangolin il y a quelques années. Enfin, c'est cette idée-là de comment on fait avec ce vivant-là.
Et donc, du coup, t'es partie sur cette thématique-là. Comment, du coup, le reste de la programmation s'est tricoté autour de cette thématique des héritages? Comment t'as choisi les spectacles? Comment t'as choisi tout ce qui fait partie de cette programmation?
Ben, l'idée, c'est vraiment d'arriver à articuler, effectivement, ce fil rouge, parce que j'ai pris, je dirais, conscience très, très fortement l'année dernière, comme ça infusait toute la programmation et comment c'était important pour le public, ce fil rouge-là. Et il se trouve que j'avais des spectacles que j'avais déjà repérés et qui parlaient de ça, enfin qui étaient exactement dans cette thématique-là. Donc certains sont logiquement retrouvés dans la programmation, d'autres je suis allée les chercher. Et puis il y a aussi un premier texte qui va ouvrir le festival que j'ai lu il y a peu de temps et j'ai eu un très gros coup de cœur pour ce texte. Et donc j'en ai proposé la lecture à Bastien Chrétien, qui est notre metteur en scène qui s'occupe de tout ce qui est autour du théâtre amateur à Texte en l'air. Et donc on va en donner lecture en ouverture du festival et pour moi c'est vraiment comme un donner la couleur justement de ça. Voilà, après il faut trouver un équilibre, il faut que je propose des spectacles différents chaque soir pour aussi rencontrer des esthétiques de théâtre aussi très différentes les unes des autres, des écritures différentes. Donc c'est un peu cet équilibre-là.
Travail qui doit être passionnant d'aller essayer d'articuler tout ça pour que nous, public, on soit bénis dans cette thématique-là et à la fois qu'on ait des formes différentes de la musique, des lectures. Et puis on le rappelle, il y a une dimension effectivement d'éducation populaire dans ce festival parce que pour vous, c'est important que et les artistes professionnels aient une vraie place, mais que les amateurs et notamment les jeunes, avec ce fameux stage jeune peut-être dont tu vas nous parler, aient une place et puissent pratiquer parce que le théâtre, c'est être spectateur, spectatrice, mais c'est aussi, pourquoi pas, s'y essayer.
S'y essayer, et c'est aussi, le stage jeune, c'est aussi l'occasion, je le trouve, de découvrir, d'apprendre à être spectateur aussi. Qu'est-ce que c'est regarder un spectacle? Comment on le regarde? Comment on peut en parler après? Donc ce stage jeune, il déploie tout ça. Il déploie aussi un volet sur qu'est-ce que c'est aussi que l'engagement. Alors l'engagement sur scène, quand on doit être sur scène au milieu des copains, mais aussi l'engagement en tant que bénévole dans une association. Et donc ce stage jeune, il accueille des jeunes d'entre 15 et 17 ans. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'on avait beaucoup d'anciens du stage jeune qui avaient continué un peu à faire du théâtre, certains avec Bastien Chrétien, et qui trépignaient à l'idée de continuer. Et donc cette année, on a pu leur proposer un stage à ces anciens stagiaires et ces jeunes qui vont aussi avoir un moment où ils vont nous donner lecture là d'un héritage de nos auteurs d'aujourd'hui, quoi. Donc ils vont faire un focus sur un auteur qui s'appelle Valère Novarina, qui est disparu cette année, et donc on a eu envie de lui rendre hommage. Donc ils sont en construction d'un moment qu'ils vont avoir pendant le festival.
Donc c'est comme un deuxième stage pour eux?
C'est comme un deuxième stage.
De travail,
C'est voilà. Sauf que ce stage, il sera pas pendant le festival. Il est en amont du festival.
Okay.
Mmh. Et sur le mois de juillet, sur des grands week-ends, parce que ben, comme ils ont fini le lycée, ils sont presque tous étudiants. Donc pour les regrouper, c'est l'été qu'on y arrive. Et donc ils vont préparer ça en amont du festival.
C'est beau aussi cet ancrage qui fait que des gens, des un tout petit peu moins jeunes, qui ont vécu le stage aient envie de revenir. Les bénévoles aussi vivent vraiment ce côté familial, ce côté on revient chaque année, on retrouve les mêmes. Il y a un côté très affectif aussi à Texte en l'air, j'ai l'impression.
Absolument. Et ces jeunes d'ailleurs sont bénévoles à Texte en l'air depuis qu'ils ont fait le stage jeune. Et certains sont rentrés en études théâtrales. Et donc il y a vraiment des fils comme ça qui se tissent. Et puis oui, l'équipe des bénévoles de Texte en l'air, c'est aussi pour moi une chose importante, c'est que ça se mélange entre les générations. Et ça, c'est vraiment important. Il y a des gens du village qui sont nos bénévoles depuis très longtemps. Voilà, il y a ces jeunes qui arrivent, les plus jeunes ont 15 ans. Et on fait en sorte que dans les missions bénévoles, ça se mélange un peu.
C'est important et je pense que c'est des choses aussi qui sont particulières au milieu rural, de pouvoir côtoyer d'autres générations et à quel point on en a besoin justement pour vivre pour ces questions-là d'héritage.
Oui.
Mais dans le corps et dans faire ensemble. Est-ce qu'on rentrerait pas dans la programmation jour par jour, parce que donc c'est du 22, donc du mercredi 22 au dimanche 26, avec beaucoup de propositions. Il y a des incontournables, des choses qui fonctionnent et que vous avez envie de remettre chaque année. Peut-être on peut commencer par ça pour le mercredi 22.
Oui, donc j'en ai un petit peu parlé. Ça va ouvrir avec une lecture d'un texte qui s'appelle Mauvaise Pichenette. Ça se passe en milieu rural, dans une ferme. Il y a la mère, le frère et la sœur. Mais j'ai pas envie de raconter l'histoire parce que c'est vraiment un texte qui suit presque comme un thriller. Donc il y a vraiment pas du tout envie de dévoiler ce qui se passe. Sauf que voilà, le frère a repris la ferme après la mort du père. La sœur ne rentre pas le soir ou rentre très tard et le frère et la mère l'attendent. Et donc on va comprendre petit à petit pourquoi elle rentre si tard, ce qu'elle a fait de ce temps-là.
Donc ça, c'est le mercredi 22 à 16h30 pour ouvrir avec ce texte qui a été ton coup de cœur.
Voilà.
On a hâte de découvrir. D'autres choses qui te semblent importantes pour ce mercredi 22 juillet ?
Alors, il y a l'incontournable moment d'inauguration. C'est important pour nous et parce que c'est aussi le moment où on peut parler officiellement de comment est soutenu aussi le festival Texte en l'air. Donc ça, c'est vraiment important. Il est soutenu sur le territoire, il est soutenu par le département, par la SMVC, la mairie, le département, la région et la DRAC, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est vraiment important à un moment de rappeler ça, que la culture, elle se fait parce qu'il y a du soutien public. Et donc ça, c'est important. Et c'est aussi donner la parole à la présidente de l'association, donc qui a une fonction aussi, le conseil d'administration, importante. Et puis après, par contre, on va ouvrir avec le premier concert. Et puis ensuite, on aura notre premier spectacle dans la basse-cour, qui est cet endroit magnifique à Texte en l'air.
Le premier spectacle, c'est Ouvrière. C'est donc à 21h30 ce mercredi 22 juillet. Ouvrière, Mémoire dans la peau, qui sont une compagnie basée à Romans et qui ont circulé pas mal sur notre territoire, qui sont venus jouer à Saint-Jean et qu'on a eu l'occasion d'interviewer. C'est un spectacle qui rend hommage à la vie des ouvrières et notamment textiles, mais pas que, qui ont fait tout un travail aussi de recherche.
Oui, dans ce spectacle-là, il y a deux volets. Il y a Ouvrière, qui est Mémoire dans la peau, qui est vraiment un spectacle qui s'est joué à Saint-Jean. Et parfois, elles font aussi des déambulations où elles vont investir un territoire et s'emparer de l'histoire ouvrière du territoire. Mmh. Mais là, dans le spectacle, elles parlent principalement de la cartoucherie de Valence pendant la guerre 14-18 et des usines de chaussures à Jourdan, à Romans-sur-Isère, dans les années 70-80. Voilà. Et il y a aussi à la fin aussi une réflexion sur quelles sont les luttes ouvrières aujourd'hui. Donc c'est vraiment un fil tiré sur ces héritages-là qu'on a des femmes travaillant et en lutte et qui ont lutté et qui sont souvent très vite invisibilisées, les femmes qui ont lutté dans l'histoire ouvrière aussi. Donc c'est ça qu'elles ont voulu déployer.
Je n'ai pas à la lune et s'illumine à la manière d'un volcan.
Le lendemain, jeudi 23 juillet, c'est une journée assez dense puisque ça commence dès le matin avec des lectures théâtralisées. Ça, c'est des choses aussi qui reviennent chaque année, des lectures théâtralisées ou des lectures théâtralisées jeune public. Pour vous, c'est important d'accéder aux textes de théâtre par la lecture aussi.
Oui, et puis c'est important justement de faire passer le message que le théâtre, ça se lit. Ça peut se lire. Le théâtre jeunesse, c'est facile à lire, c'est amusant à lire en famille. On peut se distribuer des rôles des fois et lire ensemble. C'est voilà, c'est ludique. Mmh. C'est vraiment ludique et c'est un accès formidable justement à la lecture parce que c'est des fois moins impressionnant. Et comme il y a l'idée de jeu, ça pour les enfants, c'est des fois quelque chose qui peut les attraper. Des enfants qui ont un rapport un peu difficile avec la lecture. Mmh. Et donc ce jeudi, en fait, il y a un temps fort pour nous qui est le matin, qui est le partenariat qu'on a depuis des années avec l'antenne du Secours Populaire de Saint-Marcellin. Et donc il y a un atelier d'écriture qui s'appelle Partage d'écriture, qui est mené par Gilbert Vincent Cabou tout au long de l'année. Et ensuite, ils sont rejoints par Bastien Chrétien, qui va les mettre en scène dans ce qu'ils ont écrit. Donc c'est un rendez-vous vraiment où il y a de plus en plus de monde et c'est très beau parce que on voit le public, le tout public venir à ce rendez-vous et reconnaître les gens qui d'année en année participent à cet atelier d'écriture. Il y a toujours des nouveaux, des nouvelles, des gens qui partent évidemment. C'est toujours une gageure de tenir ce projet-là parce que c'est... On sait que c'est très compliqué de tenir des gens pendant un an sur un projet, mais des gens qui ont des problématiques difficiles de vie, de survie,
de précarité,
mmh. C'est encore, ça multiplie la difficulté.
Gilbert Vincent Cabou, qui est bénévole à Radio Royan et qui fait une chronique qui s'appelle « Vous prendrez bien un dernier verre ». Et puis Bastien Chrétien, qu'on a eu l'occasion régulièrement d'avoir à ce micro également. Donc on est en terrain connu. Et un beau projet qui tient dans le temps. Et encore une fois, ça c'est important, de, comme tu dis, de retrouver des personnes, et puis d'être dans l'écriture, de s'essayer. Ensuite, il y aura des thés ou cafés qui sont des rencontres causeries. Ça, c'est aussi des habitudes que vous avez à Texte en l'air.
Oui, parce que c'est vraiment, il y a vraiment l'envie, on le sent dans le public, de parler de ce qu'on a vu, de ce qu'on va voir, d'en entendre parler. C'est-à-dire que c'est pas un endroit où on vient juste voir un spectacle et repartir directement. C'est vraiment un endroit aussi où on peut venir entendre des discussions, participer à ces discussions. Et donc là, on essaye de réunir les artistes qui ont joué la veille ou qui vont jouer le jour même autour d'une thématique commune. Et on déploie un peu cette thématique, mais c'est aussi l'occasion de donner la parole au public s'ils ont envie de parler de ce qu'ils ont vu ou poser des questions sur ce qui va arriver. Donc c'est et puis c'est tranquille, c'est un thé au café, c'est souvent sous le magnifique cèdre du jardin de l'Arche. On est au frais,
on est bien,
on est bien et on est entre nous tranquillement.
À 14h ce jeudi 23 juillet autour du théâtre documentaire, cette fois-ci c'est la thématique comment les artistes s'emparent-ils de la matière documentaire pour aller vers la fiction. C'est aussi le passage de cette expérience individuelle, je reçois un spectacle à quelque chose de collectif, je l'ai reçu avec d'autres. Et je me relie aux autres et ça donne une autre dimension à mon expérience. Là, on est encore en plein dans l'éducation populaire. Hein.
Oui.
Totalement. Pour le reste de la journée, des choses dont tu as envie de nous parler, Valérie ?
Alors, le reste de la journée, il y a un spectacle au Théâtre du Furan, donc cette salle des fêtes qui s'appelle le Théâtre du Furan, pendant le festival Texte en l'air. Et on va accueillir cette année, jeudi et vendredi, deux jeunes, toutes jeunes compagnies, puisque ce sont leurs premiers spectacles. Et c'est dans un dispositif qui s'appelle Les Envolées. Donc on est 10 partenaires, 3 de Lyon, de l'agglomération de Grenoble. Et on se réunit tous ensemble, on met nos forces tous ensemble pour accompagner 3 jeunes compagnies vers leur premier geste artistique. Et cette année, on a 2 propositions qui sont très, très différentes l'une de l'autre. Et c'est ça qui fait la richesse de ce projet-là. La première, qui s'appelle Adorcisme, qui est sur un jeune homme qui retrouve son journal d'adolescent et qui va revisiter ce temps-là de l'adolescence. Et donc, c'est un dispositif scénique très, apparemment très simple. Et il y a plein de trouvailles, c'est-à-dire comment par moment on part sur quelque chose de très ténu, c'est presque une conversation avec le public, très simple, et petit à petit on se retrouve au théâtre parce que il y a de l'invention, il y a de l'imaginaire qui arrive, il y a de l'invention scénique, et j'aime beaucoup cette délicatesse qu'ils ont. Et l'autre spectacle qu'on aura le lendemain, qui est très différent, Maelstrom, c'est une compagnie qui s'appelle Le Cri des Vaches, parce qu'ils ont choisi de s'implanter en Allier. Et dans l'Allier, et ils sont vraiment au milieu rural, ils font un travail, ils entament un travail de territoire là-bas, donc je trouvais que ça va un écho vraiment fort aussi avec où on vit nous. Et là, ils nous proposent un spectacle sur une forme qu'on voit plus trop aujourd'hui sur les scènes, c'est du théâtre masqué. Mais pas du tout comédia dell'arte. Ces deux personnages masqués, c'est quand même le roi et le bouffon. Et donc, dans une dystopie, quoi, ils ne sont enfermés, il ne faut plus sortir, l'extérieur a l'air dangereux, donc on ne va pas en sortir. Jusqu'à ce que. Et donc, le bouffon a comme rôle d'animer et de faire passer le temps pour le roi, jusqu'à ce que peut-être se pose la question de mais est-ce que l'extérieur est vraiment dangereux ?
Donc là, ce dont tu nous parles, c'est Maelstrom, et c'est toujours dans ce dispositif des envolées,
oui.
Donc un peu tremplin.
Voilà, absolument. Ça sera aussi au Théâtre du Furan. Et donc, ils ont joué trois représentations à Grenoble, et ils sont allés faire une tournée à Lyon aussi. Et là, ils sont en fin de parcours, ils arrivent à Texte en l'air.
Ça, c'est donc le vendredi 24 juillet. Pour finir sur la journée du jeudi 23, il y a un concert, comme régulièrement dans vos soirées. On a envie qu'au moment de l'apéro, vers 19h30, il y ait un concert gratuit pour écouter aussi du texte autrement, en musique.
Absolument, voilà. Et parce qu'on peut dire que l'écriture quand même de chansons, de textes qui se chantent ou qui se parlent sur la musique, maintenant, c'est très poreux en plus. De plus en plus, les catégories, on invente beaucoup, beaucoup de mots pour les distinguer les unes des autres. Mais en fait, il y a une porosité assez grande, je trouve, entre les formes. Et là, c'est quatre garçons de Lyon qui nous viennent de Lyon, un jeune groupe. Avec une chanson folk sensible et très sympathique et fraîche, je dirais rafraîchissante. En ces temps-là, c'est pas mal.
Et puis on finira la journée sur Tout entière à 21h30. De quoi s'agit-il ?
Alors là, c'est un spectacle très particulier parce qu'il s'appuie sur une histoire très particulière, l'histoire de Viviane Meyer, où on pourrait dire que nous avons collectivement hérité de son travail. Donc elle était gouvernante aux États-Unis, et après sa mort, quelqu'un a racheté une maison dans laquelle elle avait vécu en tant que gouvernante, et on a retrouvé 150 000 négatifs de photos qu'elle avait fait tout au long de sa vie, mais qu'elle n'avait jamais fait développer.
Incroyable,
c'est une histoire incroyable. Il y a eu un documentaire incroyable qu'on peut voir sur elle. Il y a des expositions. Il y a eu une exposition à Grenoble il y a quelques temps. Et c'est un auteur qui s'appelle Guillaume Poix et une comédienne, Réjeanne Bajard, de la plateforme Le Cul Solus, qui s'empare de cette histoire-là et qui tisse vraiment une enquête et comment... Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Qu'est-ce que ça nous raconte ? Quel lien on peut avoir avec sa femme ? Qui elle était, cette femme ? Comment ça se tisse, tout ça ? Et c'est assez étonnant et sensible et poétique aussi sur le plateau.
Ça donne très envie.
Non, ça n'existe plus. Je devine, le silence n'existe plus.
Alors le lendemain, le vendredi 24 juillet, grosse journée aussi à Texte en l'air, et nous on sera là avec Radio Royan Vercors pour se glisser dans vos rencontres causeries, thé ou café, avec cette table ronde que j'animerai dans le jardin du Palais Abbatial, avec notamment les autrices en résidence, et puis Kobe, qui est votre artiste plasticien, qui réalise l'affiche notamment.
Oui.
Et on travaillera autour de la question de la ruralité. Qu'est-ce que c'est être artiste en milieu rural? Quelle stratégie? Comment tout ça se passe? Donc ça risque d'être un moment aussi assez chouette et intéressant. Ça, c'est à 14h. Alors j'ai commencé par 14h.
Oui, mais c'est bien de commencer par là aussi parce que c'est un moment... On peut dire que c'est aussi une des nouveautés de cette saison parce qu'on n'a jamais tissé ensemble ce moment-là. Et donc moi, je suis très heureuse de faire ça cette année. Et je trouvais que cette question, pour moi, elle est aussi importante à partager parce que reste encore souvent dans la tête les petites phrases qu'on entend un peu récurrentes et qui nous font tant de mal en ce moment sur l'art, c'est loin de nous, c'est pas pour nous, les artistes, ils sont parachutés sur le milieu rural, on serait séparés. Et là, non, en fait, on les croise à la boulangerie, parce qu'en fait, on en a des artistes qui vivent sur notre territoire, voilà, tout le territoire isère-dromois est très riche. Donc, c'est aussi remettre ça un peu sur la table et voir un peu ce que ça raconte, ces histoires-là.
Oui, avec Métis qui habite ici dans le Royan, oui. Anourada qui vient du Trièvre,
voilà,
juste de l'autre côté du Vercors, oui. Kobi qui est plutôt en Ardèche, il me semble.
Il est en Ardèche, oui.
Donc voilà, des choses qui vont pouvoir aussi faire écho.
Oui.
En tout cas, le matin, il y a aussi des pérégrinations poétiques et des lectures jeunes publics.
Oui.
Ça, c'est à 10h et à 11h des habituels, on va dire.
Oui, avec pour la deuxième année, les médiathécaires du réseau Pastèque qui s'emparent de la première pérégrination poétique.
Et l'après-midi, donc il y a Maelstrom dont on parlait oui. tout à l'heure dans ce dispositif Les Envolées, ce tremplin pour les jeunes compagnies, ça c'est à 17h30. Et concert à 19h30 avec Aflama en occitan.
Oui, alors Aflama c'est trois femmes jeunes et d'un dynamisme certain qui se sont emparées du répertoire des musiques traditionnelles du Dauphiné. Et qui est populaire et qui les tire vers une autre esthétique aujourd'hui en utilisant énormément d'instruments percussifs. Et c'est vraiment, voilà, elles étaient aussi tellement dans ce lien-là sur comment elles se sont emparées de cet héritage qu'on a, qu'on redécouvre peut-être aussi parce qu'on l'avait oublié à un certain moment où c'était folklorisé, donc un petit peu... ça prenait un peu la poussière, je dirais, ce genre de répertoire. Et depuis quelques années, il est complètement... beaucoup de jeunes artistes s'en emparent à nouveau. Et ça, c'est chouette, quoi.
Et le revisite avec quelque chose d'actuel. On est aussi dans l'héritage, là.
Absolument.
De la tradition orale, aussi de dialectes qui sont peu ou qui ont tendance à disparaître. Et à la fois, qu'il y a une forme aussi... C'est un propos politique aussi, hein, de les garder
oui.
vivants.
Oui, et c'est notre patrimoine aussi. Et Texte en l'air, c'est comme dans un village patrimonial. Et donc, c'est important, cette question-là aussi.
Et on continuera la soirée avec cette pièce Feu la forêt, pour le temps fort de la soirée, à 21h30.
Oui, une équipe que nous avons accueillie il y a 3 ans avec un spectacle qui s'appelle Mort d'une montagne. Et donc, c'est le deuxième volet de ces histoires-là qui traitent des questions de problèmes écologiques qui se posent ou qui vont se poser à nous, mais qui se posent. On peut les mettre vraiment au présent. Et donc là, après l'effondrement des montagnes, là, il part de la problématique de l'eau et des feux de forêt en plein été. On est dans un petit village au pied du Vercors. Il y a eu un incendie. On ne sait pas pourquoi il a été déclenché. Et la question de l'eau se pose, puisque la rivière est un peu presque asséchée. Elle sert aussi à des agriculteurs, cette rivière, pour pouvoir continuer leur activité. Et donc, c'est tous ces gens-là et ces choses-là qui mettent en tension les gens les uns presque contre les autres. Il y a aussi la question de... des pompiers volontaires en milieu rural, comment on fait avec cette désertion un peu où les casernes ont de plus en plus de mal à recruter. Donc c'est toutes ces thématiques qui brassent et ça devient une histoire portée par 4 comédiens vraiment fabuleux et qui nous embarquent dans un récit avec une forme... presque quelqu'un qui a vu le spectacle avec moi me disait « mais on se croirait dans une série !» Parce que ça va très vite, ça passe d'une scène à l'autre. On suit plusieurs histoires en même temps, on n'est jamais perdu. On rit, on est ému. C'est vraiment un moment de théâtre pur et en même temps on emporte avec nous toutes ces interrogations, ces réflexions, qui nous ont fait partager.
Oui, et puis c'est pas du tout dystopique, c'est très 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 actuel.
Absolument.
L'été caniculaire, on y est.
Ouais.
Et puis il y a ce magnifique temps fort de Texte en l'air pour ce vendredi 24 juillet, c'est la nuit de l'écriture, un temps hors du temps que vous continuez.
Oui, un temps hors du temps, un temps presque hors de la rythmique d'un festival qui est qu'on passe d'une chose à une autre, même si on fait très attention à ce que les événements ne se chevauchent pas les uns aux autres, qu'on puisse passer d'un événement à un autre. Là, c'est la nuit de l'écriture. Donc, il y a 15 personnes qui vont prendre tout leur temps, toute leur nuit, pour écrire, accompagnées des deux autrices en résidence. C'est un partenariat avec le musée départemental de Saint-Antoine-l'Abbaye. Donc, elles seront au sein du musée pour écrire. On ne sait pas du tout ce qui se fabrique là-dedans. Et au petit matin, on les retrouvera à 8h30 dans le jardin du musée abbatial où ils livreront ce qu'ils ont écrit pendant la nuit. Donc c'est vraiment une aventure un peu hors du commun à vivre, hein, en tout cas hors du quotidien à vivre.
Oui, puis dans cette société qui va vite et qui prend pas le temps, on sait que le temps de la création, il est précieux et pourquoi pas la nuit.
Absolument.
Dans un état un peu particulier, un petit peu dans un autre état de conscience en tout cas. Ils et elles seront emmenés par les deux autrices en résidence, Métis et Anuradha, et j'imagine que il va y avoir des choses autour de la question de l'héritage, des héritages.
Oui, alors
c'est leur thématique.
Voilà, c'est leur thématique et après elles tissent aussi leur thématique en fonction de l'exposition qui est au musée aussi, de ce qu'elles vont. Quand elles arrivent, elles vont voir le musée, visiter le musée, et peut-être que ça va les inspirer pour proposer justement des exercices d'écriture, des ateliers d'écriture. Voilà. Donc elles vont tisser ça ensemble, en fait.
C'est une belle rencontre aussi entre deux autrices pour travailler ensemble.
C'est ça. Pour moi, c'était la proposition pour que c'est les deux personnes qui sont en résidence dans l'année se rencontrent, se côtoient. Et parce que l'écriture est souvent quelque chose qui se fait de façon très solitaire. Et là, j'avais vraiment envie de créer je tenais à mettre ce moment ensemble à deux pour que déjà à deux, je pense, pour traverser cette nuit, c'est plus facile aussi. Et puis c'est aussi, on ne se connaît pas du tout. On va diriger ensemble cette nuit-là, cet atelier-là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est aussi une aventure pour elle.
Donc si ça vous intéresse, il y a 15 places, ça coûte 30 euros la nuit, ce qui est quand même assez abordable pour vivre toute une nuit d'écriture. Donc inscrivez-vous, les places sont à prendre sur le site de Texte en l'air. On se retrouve donc le samedi 25 juillet après la nuit, on émerge et on lit les textes donc à 8h30 dans le jardin médiéval du musée. C'est tout public, c'est gratuit, se réveille en lecture et on enchaîne avec une pérégrination poétique.
Oui, avec une pérégrination poétique cette année qui est faite par justement Gilbert Vincent Cabot qui a plusieurs casquettes et qui est donc auteur aussi et donc il va nous offrir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ses textes à Texte en l'air, donc il va nous offrir cette pérégrination et il sera accompagné d'un graphiste, Bernard Dimier, qui va faire une proposition graphique aussi autour de ça.
Et puis les lectures avec les tréteaux de la Cumane, c'est à 11h et les lectures théâtralisées sur ce dont tu parlais là, des stagiaires,
voilà.
Ça c'est à 15h.
Ça c'est à 15h.
Donc les lectures théâtralisées pour continuer la journée et à 17h30, on se retrouve avec le premier spectacle de la journée. Il n'est pas trop tard puisqu'on est là.
Voilà.
Quel titre interloquant.
Oui, interloquant. Et c'est une compagnie que j'ai déjà accueillie avec un spectacle qui s'appelait Bjik. Une compagnie ardéchoise, La Ligne, et ils ont fait un travail d'enquête au Parc National des Monts d'Ardèche et sur les thématiques écologiques, de l'eau, etc. Et en fait, là, ils sont deux en scène et en fait, ils viennent nous expliquer comment en fait, ils n'ont pas réussi à faire ce spectacle qu'on leur demandait, ils n'ont pas réussi à répondre à cette commande et que des fois, rater, c'est bien et c'est bien de rater tous ensemble. Et évidemment, c'est le pitch du début du spectacle qu'ils vont après déployer. Donc c'est un spectacle qui se présente sous une forme apparemment documentaire, donc il est très documenté réellement, mais après c'est comment ils se sont emparés de toute cette matière documentaire pour encore là nous amener au théâtre. Et au théâtre et vers l'imaginaire et la poésie, parce que c'est peut-être, c'est certainement ça qui va nous aider à répondre à toutes ces énormes questions auxquelles on doit répondre aujourd'hui.
Fausse conférence, vrai spectacle, on va être là-dedans. Et encore une fois, quand on est dans une société de la réussite et qui aime pas trop les échecs, le récit d'un échec,
oui,
c'est un contre-pied.
C'est un contre-pied et c'est un peu jubilatoire de voir ça dans un pitch, quoi. Quand on se dit essayons de rater tous ensemble. voilà, c'est un pied de nez que je trouvais amusant, quoi. Et le spectacle d'ailleurs a cette saveur-là.
À découvrir, donc, il n'est pas trop tard puisqu'on est là à 17h30 au Théâtre du Furan ce samedi 25 juillet. Puis on continuera la soirée comme d'habitude avec d'abord un concert gratuit à 19h30. Donc là, c'est le groupe Yaros.
Voilà, un groupe qui nous vient de Montpellier et qui, c'est un groupe, ils sont quatre en scène avec un violoncelle, une trompette. Donc il y a une formation un peu étonnante. On voit pas ça souvent, mais c'est ça. Il y aura du son, comme on dit. Voilà.
Et à 21h30, la France Empire, un secret de famille nationale. Mais de quoi s'agit-il?
Alors c'est Nicolas Lambert qui a créé ce spectacle-là et qui est parti de l'histoire de France telle qu'on lui a racontée dans son enfance, voilà, sans dévoiler exactement son âge, mais c'est quelqu'un qui doit avoir, qui doit être né dans les années 60, hein, je dirais. Et donc, comment on lui a raconté l'histoire de France et comment, avec l'Algérie, grenier à blé de la France, enfin, tout l'empire colonial, et comment petit à petit ça a disparu sans qu'on en fasse l'histoire. Finalement, de la décolonisation aussi. Donc, c'est un petit peu ça qu'il vient nous raconter en partant vraiment de son histoire personnelle et en ouvrant un petit peu justement sur notre héritage à nous, à tous ceux qui vivons sur ce territoire-là. Quel est-il et c'est peut-être d'accord d'arrêter de parler de certaines choses, mais pour arrêter de parler de certaines choses, il faudrait en avoir parlé. Et donc, c'est vraiment ça qui va interroger. Et c'est fait avec pertinence, intelligence, humour, comme il sait très bien le faire, comme il l'avait déjà fait dans d'autres sujets aussi brûlants, je dirais.
Puis les questions coloniales sont loin d'être terminées.
Absolument.
Donc, il y a des échos à la fois de l'héritage et à la fois très, très actuels, quoi.
Absolument.
Et le dimanche 26, dernière journée à Texte en l'air, on en aura déjà pris plein les yeux, plein le cœur, de plein de poésie de différentes manières. Donc pour ce dimanche 26 juillet, dernier jour, on commence par une pérégrination poétique.
Oui, et là on retrouve un partenariat avec la Maison de la Poésie Rhône-Alpes et qui nous a proposé une pérégrination avec Léa Cerveau, qui est une poétesse qui vient nous parler de l'histoire de nos ancêtres à la quête d'une unité retrouvée avec le vivant. Telle était sa proposition. Donc, ça va être un très joli moment. C'est une écriture très charnelle, vivante, forte. Et c'est une proposition qui m'a vraiment plu et qui attise ma curiosité et l'envie très fortement de voir cette personne, de rencontrer cette personne.
Et puis ensuite, plusieurs choses dans la journée avec encore des lectures jeunes publics à 11h, les jeunes en immersion, donc la restitution du stage avec Bastien.
Oui, absolument, qui ont travaillé sur les textes des deux autrices en résidence.
Donc ça c'est à midi, ça s'appelle Yelles émergent dans le jardin de l'Arche. Et puis enfin, la sortie de résidence d'Anuradha Raghunandan, autrice en résidence, donc à 14h30. Mon oncle Joseph, elle avait hésité, donc je l'avais interviewée à ce même micro, elle hésitait sur le titre, on est donc sur Mon oncle Joseph.
Voilà, Mon oncle Joseph, et donc où elle va nous parler un petit peu de la question de comment fait-on pour se souvenir de quelqu'un dans notre famille dont on est dit faudrait pas l'oublier, mais une personne dont on nous a rien raconté. Et donc voilà, donc elle vient faire cette lecture avec, elle sera accompagnée de d'une comédienne, Aurore Desgranges, et elles liront à deux ce texte qui est qui sera sans doute en une première étape d'une écriture, et je pense que elle continuera son travail après, mais déjà qui est une proposition vraiment intéressante.
Et puis à 16h, c'est L'Ours, c'est du théâtre jeune public. On les a vus il n'y a pas très longtemps, accueillis par la cinquième saison, dans le Royan.
Oui, absolument. Et à Saint-Laurent-en-Royan, c'est là que je les ai vus.
Et elle revisite l'histoire de Peau d'Âne.
Elle revisite l'histoire de Peau d'Âne. Elles sont trois comédiennes. C'est un spectacle qui se joue en extérieur. C'est vraiment tout public. Donc c'est vraiment la proposition familiale par excellence pour le dimanche, avec l'histoire de Peau d'Âne. Elle la revisite parce qu'elles prennent l'histoire originelle du conte qui a été après réadapté par Charles Perrault, et évidemment avec, on peut le deviner, avec toutes les questions qui agitent en ce moment, les questions féministes, les questions de consentement, de violence,
de violence sexuelle,
d'inceste, et c'est très joyeux comme moment, quoi. C'est vraiment sur la forme, c'est très joyeux, et on les accueille le dimanche. Elles reviendront d'Avignon, elles auront joué tout le festival d'Avignon, et on les accueille le dimanche. Et c'est une compagnie qui est de Tulin, donc une compagnie de pratiquement de notre territoire.
J'ai l'impression qu'entre ces thématiques-là, les questions environnementales, les questions post-coloniales, les questions d'héritage, on est vraiment dans les questions qui agitent la société aujourd'hui, les questions phares en fait.
Mais absolument, nos auteurs et nos autrices, enfin ceux qui écrivent aujourd'hui sont des citoyens comme nous, et ils sont agités par les mêmes questions, les mêmes interrogations, les mêmes craintes. Et c'est ça qui ressurgit dans leur écriture, et c'est ce qui est formidable avec quand on va travailler ce répertoire là et c'est aussi formidable parce que c'est facile d'emmener des gens voir ce genre de choses, alors que c'est pour moi beaucoup plus compliqué de les amener sur un répertoire classique qui est tellement loin et qui maintenant demande quand même à avoir quelques codes pour comprendre. Là, il n'y a rien de difficile dans l'accès à la compréhension des textes. Et après, ce qui est bien, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord, mais on peut le partager ensemble. Et j'ose espérer qu'on ait encore des lieux comme ça pour continuer à partager ensemble sur des sujets.
Et à ne pas être d'accord.
Et à ne pas être d'accord.
Et à débattre.
C'est tellement, et à débattre. Voilà. C'est tellement précieux.
Et puis quand on reçoit une proposition artistique, on sait que tous ces sujets-là, ils sont traités avec des conférences, avec des chercheurs, avec des choses qui sont très militantes ou très aussi des fois dont le discours est difficilement accessible. Alors que là, la forme artistique, elle permet d'accéder à des propos et de savoir qu'est-ce que j'en pense, et de partir avec des questions plus que des réponses. Mais d'où l'importance de ce festival, encore une fois.
Ouais.
Et puis, on finira en beauté ce festival avec encore des concerts, lectures et puis un banquet.
Oui, le banquet festif, donc qui est fait par notre chef cuisinier Maël Cinquin, et donc dans la grande cour de Saint-Antoine de l'Abbaye, on installe un banquet festif, et il y a près de 200 personnes qui mangent là, qui ripaillent, et avant le traditionnel concert de clôture, qui cette année sera fait avec le groupe Tram, anciennement Tram des Balkans. Alors, il ne renie pas les Balkans, mais il s'ouvre à d'autres esthétiques musicales aussi, avec leur dernier opus qui s'appelle Alligator. Et là, je pense qu'on va pousser les tables et les chaises parce que ça va danser.
Et on va célébrer cette belle édition qui se déroulera parfaitement.
Absolument.
Sans accroc. Il y a quand même des partenaires dont on n'a pas encore parlé. C'est notamment la librairie indépendante et incontournable La Bouillotte, qui est ici à Saint-Jean-en-Royans et qui est partenaire pour la deuxième édition.
C'est ça, c'est notre deuxième partenariat, et je suis vraiment ravie parce que c'est un vrai partenariat. C'est pas un libraire qui vient déposer des livres et qui s'en va. C'est un partenariat, on le construit ensemble. Et cette année, elles seront dans un nouveau lieu qui s'appelle la Salle des Pas Perdus à Saint-Antoine, qui est au-dessus de la porterie, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans la grande cour à Saint-Antoine, vous passez sous un porche et elles seront au-dessus, la salle qui traverse comme ça, et c'est l'occasion donc de découvrir cet autre endroit patrimonial du village, parce que c'est une salle qui est ouverte quelquefois pour des expositions, mais quand même très peu ouverte au public, qui est aussi une salle de mariage, et là qui sera notre librairie éphémère.
Pas besoin de se marier, on peut juste aller acheter un livre.
On peut juste aller, et je pense qu'on va être au frais là-haut aussi.
Une très belle édition pour ce 22e festival Texte en l'air du 22 au 26 juillet 2026. On rappelle que pour avoir tous les renseignements, pour avoir des passes, pour s'inscrire pour les stages, les spectacles, tout ça c'est sur votre site internet, c'est très accessible, très facile.
Oui, et on peut aussi téléphoner si on a un souci.
Et sur les réseaux sociaux.
Absolument.
Voilà.
Après, on a tous nos partenaires de Saint-Antoine-de-l'Abbaye, évidemment. C'est-à-dire que, avec le musée départemental, je l'ai cité, mais il y a la maison abbatiale, le jardin de l'Arche, donc la communauté de l'Arche avec lesquelles on travaille, la médiathèque. Et puis, j'en oublie peut-être, mais mais en tout cas, d'autres associations, les Sentiers Antonin qui nous aident pour débroussailler les sentiers des pérégrinations. C'est vraiment quelque chose qui se fait en commun aussi. Les associations Antonines sont nombreuses et travaillent beaucoup ensemble.
Quelque chose de collectif et de territorial et de patrimonial. Merci Valérie d'être venue présenter ce beau festival à notre micro, et puis on a hâte de le découvrir.
Merci à vous.